On est toujours sur les ondes de Choc FM 105.1 avec Edith Bédard, qui est notre chroniqueuse de financement jusqu'à la retraite. Bonjour Edith.
Bonjour.
Alors oui, je suis surprise aujourd'hui parce que je vois que le titre de votre chronique, c'est « Devenir la banque ». Donc ça m'intrigue. J'ai hâte de voir comment je peux devenir la banque. Alors vous pouvez nous expliquer.
Effectivement. Alors, en effet, une personne qui a des actifs comme des épargnes, des REER, des RESP, de l'équité dans une propriété ou une marge de crédit pourrait devenir la banque.
Donc, ça s'applique pas forcément à quelqu'un comme moi qui commence à travailler et qui a juste un peu d'épargne.
Alors, vous avez raison. Peut-être que pour les jeunes, ce sujet a peut-être un peu moins d'importance, mais je les incite à écouter les chroniques parce que ça pourrait peut-être les motiver et leur donner les connaissances pour prendre les bonnes actions appropriées pour se positionner dans le futur.
Oui, vous avez raison, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse. Alors, dites-nous, comment on peut devenir une banque?
En premier lieu, j'aimerais définir l'expression « devenir une banque ». Alors, naturellement, quand on pense à une banque, on pense à une banque à laquelle vous pouvez marcher dans la succursale, une banque qui a été enregistré avec les services financiers de l'Ontario, mais effectivement, pour vous, ce ne serait pas nécessaire. Je parle du fait que vous pourriez prêter vos fonds à des personnes comme une banque.
OK, d'accord, je vois. Donc, en fait, c'est si quelqu'un, par exemple, a 5 000 $ et le prête à un ami, je deviens la banque, ça?
Alors, ça, c'est un exemple qui démontre un emprunt, mais la plupart des emprunts à la banque incluent, pour la plupart du temps, un actif quelconque, comme une automobile, des biens matériels, une maison, des fonds d'investissement, dont la banque peut saisir le bien s'il y a un défaut de paiement. Le type de prêt que vous avez décrit n'a aucun recours si toutefois l'emprunteur décide d'arrêter de payer. Alors, le genre d'emprunt dont moi je veux discuter vraiment, ce sont des prêts qui sont sécurisés par une propriété immobilière.
OK, je comprends. Donc, en fait, il y a plus de sécurité s'il y a un bien à saisir, surtout si c'est un bâtiment ou un lot, en fait. Alors, revenons à la liste des actifs que vous avez mentionnés. Je suis surprise de la diversification, en fait, des actifs qu'on peut utiliser pour un emprunt.
Oui, c'est presque invraisemblable et la plupart des individus ne voient pas tous ces actifs comme des outils pour générer des revenus. Mais les personnes qui découvrent ce genre de concept vont utiliser prudemment et continuer à augmenter leurs épargnes à ce moment-là.
OK, d'accord. Et est-ce que les taux d'intérêt qui sont offerts par les investisseurs privés, ils sont dans le même pourcentage que les banques?
Non, parce que la plupart des prêts qui sont offerts d'une personne privée sont habituellement un peu plus risqués et même s'ils sont sécurisés par un bien. Alors, juste pour vous donner une idée, si je prends un exemple, un prêt hypothécaire en second rang, ça veut dire qu'on établit un deuxième prêt hypothécaire sur une maison. Alors, quelqu'un qui a besoin d'argent et décide d'avoir une deuxième hypothèque, peut-être pour faire des rénovations quelconques. Okay. Alors, ou peut-être la personne a des problèmes financiers. Si l'emprunteur a des problèmes financiers et que la banque a à prendre, mettons, la possession de la maison et de la revendre, alors le coût de ce genre de transaction sont à payer, naturellement, comme le notaire, les taxes, les frais de condo, la première hypothèque, la deuxième. Alors, quand une personne donne un emprunt de deuxième rang, la deuxième hypothèque est toujours en cinquième ou sixième position pour se faire donner des paiements. Alors, comme vous voyez, une hypothèque de deuxième rang a un peu plus de risques parce que ça peut prendre... il peut y avoir moins d'argent au bout de la ligne là, pour vous repayer.
C'est vrai que ça a l'air vraiment risqué, ça.
En premier abord, ce concept peut être un peu épeurant. Ouais. Hein? Mais si on y pense, ce n'est vraiment pas plus risqué que le marché boursier. Alors, il y a des actions préventatives qu'on pourrait prendre pour minimiser les risques. Alors, c'est en travaillant avec des professionnels comme moi qu'on peut vous guider et faire des recommandations pour vous aider à prendre vos décisions.
OK. Bon, on n'a plus de temps pour la chronique d'aujourd'hui, mais est-ce que vous pourriez nous donner plus de détails la semaine prochaine? Parce que c'est vraiment intéressant.
Oui, certainement, on pourra parler de stratégie et d'un plan d'action.
Super. Merci beaucoup, Edith.
C'est moi qui vous remercie.